La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Malouf, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. Je travaille à l'église baptiste Toulouse Métropole. Et j'aimerais qu'on lise ensemble le psaume 96 et voir comment il nous invite à une adoration renouvelée en Dieu, une adoration qui se fonde sur une vérité ancienne, sur la gloire de Dieu. Et on verra ça tout au long de ce psaume, je vous en fais la lecture maintenant. Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas, l'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Jusqu'ici, la lecture de ce psaume. Alors, je vous pose une question. Dans le retour à la routine, après un beau week-end, ou dans la persévérance au milieu de certaines frustrations du quotidien, qu'est-ce qui va nous aider à demeurer reconnaissants, comme l'auteur de ce psaume, envers Dieu, qui n'a pas changé? Une autre question. Qui peut voir la manifestation de la gloire de Dieu? Et comment voir la manifestation de la gloire de Dieu? Le psalmiste ici, il nous donne de nombreuses raisons de louer Dieu et il nous invite à chanter un cantique nouveau, c'est-à-dire à renouveler notre adoration à Dieu. Mais c'est important à noter que cette louange nouvelle ne repose pas sur des circonstances nouvelles comme un nouveau cadre de vie, un nouveau travail, la perspective des prochains congés, encore de nouveaux amis, de nouvelles relations. Non, cette louange nouvelle repose sur une vérité ancienne. La manifestation de la gloire de Dieu va éclater parce que Dieu est glorieux et il ne tarde pas dans sa fidélité. Alors, ce psaume nous pose ces questions-là et on va voir comment il nous invite à y répondre. Et premièrement, j'aimerais voir que toute la terre est appelée à adorer Dieu. C'est les 6 premiers versets. Dieu seul est digne d'adoration, il est incomparable dans ces versets et il nous invite d'abord à l'adorer par ses ordres, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. C'est un impératif même ici. En fait, il nous rappelle qui il est, premièrement, qu'il est le Créateur au verset 5, l'Éternel a fait les cieux. On voit une dimension de Dieu ici qui est extraordinaire, c'est le Créateur de toutes choses. Et d'ailleurs, pour confirmer qu'il n'a pas d'égal, qu'il est incomparable, eh bien, dans ce même verset 5, il se compare à tous les autres dieux, les dieux des peuples, qu'il appelle idoles. Et ces idoles, ces faux dieux, c'est ce qui nous cache la beauté et la réalité de la puissance de Dieu. C'est souvent ce qu'on choisit de suivre, qui nous satisfait ou semble nous satisfaire dans l'immédiat, mais qui au fond nous laisse encore plus creux, encore plus vides dans nos vies. Quelles sont ces idoles? Quels sont ces faux dieux qui nous environnent, qui remplissent nos cœurs? Ça peut être une belle carrière, la réussite sociale, la réussite amoureuse, l'argent. Ça pourrait être un loisir dévorant. Toutes ces choses, si elles ne sont pas sous le vrai Dieu, assujetties, rééquilibrées, réordonnées, eh bien ces amours-là deviennent des idoles, deviennent nous rendent en fait creux, deviennent ces faux dieux dont il est question ici. Et face à ces faux dieux, l'Éternel rappelle que lui, il a créé les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Ensuite, pour se rappeler combien ce Dieu est digne d'adoration, il nous invite à nous souvenir des merveilles qu'il a accomplies. Ces merveilles qu'il a accomplies par le passé, ces merveilles qu'il accomplit parmi son peuple. Et peut-être si vous n'êtes pas encore partie de son peuple, eh bien, écoutez, regardez les personnes qui se revendiquent de Dieu, qui se revendiquent de ce Dieu de la Bible. Parce que oui, le Dieu de la Bible est puissant pour faire des prodiges. Parce que oui, le Dieu de la Bible a fait des prodiges par le passé, parmi son peuple. Et la Bible elle-même est un recueil de la puissance prodigieuse de Dieu au travers de son peuple. Et c'est ce qui nous invite à nous rappeler pour être adorés, pour nous rappeler à notre cœur que ce Dieu-là est incomparable. Et face à ce Dieu incomparable, effectivement, nous allons être déçus par nos faux dieux. Nous allons constater la vanité de nos faux dieux. Ensuite, j'aimerais qu'on s'attarde sur un deuxième point qui est évident dans ce psaume, le règne de Dieu. Toute la terre ici est appelée à vivre sous le règne de Dieu. Je vois ça dans les versets 7 à 10, hein, où finalement Dieu nous montre qu'il mérite notre obéissance parce qu'il règne déjà. Le laisser régner dans notre vie, c'est déjà premièrement lui rendre gloire, et non l'utiliser pour nos intérêts, pour notre gloire. Rendez à l'Éternel la gloire, c'est l'invitation de ces versets. Il nous invite même à apporter nos offrandes auprès de lui. On peut s'approcher dans ses parvis avec des offrandes de reconnaissance pour qui il est, de reconnaissance pour ce qu'il a fait. Ce Dieu saint nous invite à reconnaître sa splendeur, à reconnaître son règne sur nos vies. Et comment tout ça devrait se traduire concrètement? Eh bien, par l'obéissance. L'obéissance à sa parole. Ultérieurement, ce psaume, sa parole faite chair, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même avertira à mettre de l'ordre dans notre vie par cet appel qu'il nous lance à la cohérence entre notre parole, notre confession, et d'un autre côté, notre obéissance véritable, nos actes, nos pensées, notre manière de vivre, notre quotidien. Et voici ce qu'il dit en Luc chapitre 6, verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» L'incohérence mise en évidence par Jésus ici me fait penser à ces scènes du quotidien qu'un parent peut vivre avec son enfant. Il lui demande de manger son yaourt. L'enfant dit « Oui, 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 je mange ». Il peut répéter 4 fois « Oui », mais s'il ne le mange pas, il a désobéi. Nous, en tant que croyants, on a encore plus de raisons à obéir au Père Céleste, puisqu'il est parfait, il est juste dans ses jugements, il règne, son trône est éternel. C'est Dieu. En fin de compte, il mérite toute notre adoration. Il mérite toute notre obéissance aussi, parce qu'il est Dieu, il règne avec fidélité sur sa création. Mais la vérité, c'est que souvent nous désobéissons à Dieu, nous contournons ses ordres, nous contournons son autorité bienveillante à notre égard. Et bien que toute la création n'obéisse pas toujours à Dieu, un beau jour, et c'est la fin de ce psaume qui est assez merveilleuse à mon sens, c'est que un beau jour, tous verront, tous reconnaîtront qu'il est l'Éternel, qu'il est le Dieu qui règne. Et quand est-ce que cela se passera ? C'est au jour du jugement, au jour du jugement où il viendra pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, c'est important de le préciser. Avec justice, c'est-à-dire selon ses standards parfaits. Nos tribunaux humains ont des lacunes, mais la justice de Dieu est parfaite. Et il viendra juger le monde, et en fait même tous les peuples, selon sa fidélité. On pourrait s'attendre selon sa colère, et non, selon sa fidélité. Sa colère n'est plus. Il juge selon sa fidélité. Le juge est en fait celui qui va prendre sur lui, qui a déjà pris sur lui, pour être plus exact, la colère de Dieu. Il y a eu un jugement qui est tombé, et celui-ci est tombé sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Au centre de toute cette histoire, au centre de ce psaume et au centre de la Bible, le jugement et la justice de Dieu s'accomplit sur le Fils de Dieu, sur le trésor qu'il a de plus précieux à ses yeux. Il a donné son cher Fils pour nous pécheurs. Alors oui, dans cette attente, au verset 11, le psalmiste nous encourage à espérer en Dieu et même nous dit que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, parce que l'Éternel vient. C'est une assurance que son retour. Jésus lui-même, étant monté au ciel, nous a donné son Esprit Saint, nous a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais jusqu'à la fin du monde, et nous a parlé de son retour. Un des textes les plus détaillés et les plus grandioses du retour de Christ se trouve dans l'Apocalypse. Effectivement, je vous lis Apocalypse 21, versets 1 à 3. Jean nous dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte, qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Oui, le triomphe ultime et cosmique du Seigneur ne fait aucun doute pour le disciple Jean, qui, simplement en observant une vision céleste, une vision triomphale du jugement de Dieu, du règne de Dieu, eh bien, rien qu'avec cette vision-là, cet aperçu, il tombait déjà à terre quand il reçut la révélation. Celui qui a fait toute chose nouvelle veut produire dans notre cœur aussi, dans le cœur de l'Église, dans le cœur de chaque croyant, une nouvelle louange. Il est capable, en fait, de transformer nos cœurs, de nous donner un cœur nouveau pour nous donner une louange nouvelle, une adoration nouvelle, pour ensuite nous donner une vie nouvelle, une obéissance nouvelle, une vie dansée par vie, cette fois-ci. Une vie qui n'est pas le reflet de la vie lorsque nous suivions nos faux dieux, qui nous amène à la destruction, à la perdition, à la vanité, mais une vie d'abondance, une vie de grâce. Une vie où nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés, vainqueurs du péché, vainqueurs de nos faux dieux, et triomphants par celui qui nous a aimés, chantant la louange de Dieu. Je me souviens qu'au début de ma conversion, je rentrais dans cette église dans laquelle ma mère avait l'habitude d'aller. Et je voyais une guitare acoustique, deux chanteurs, et toute l'assemblée chantait autour d'une simple guitare acoustique, parfois mal accordée, et je voyais une joie chez eux que je n'arrivais pas à avoir chez moi. Ce qui était plus frappant encore de contraste, c'est que j'étais musicien, j'avais une guitare électrique, j'avais un pedalboard, c'est-à-dire plusieurs pédales pour mettre des effets, des sons différents sur ma guitare, et malgré tout ça, je n'arrivais pas à voir, ne serait-ce qu'une miette de la joie de ces chrétiens qui se réunissaient le dimanche pour chanter les louanges de Dieu, pour glorifier son nom. Ces gens de toute nation qui, d'apparence, sont tellement différents, donc rien n'unit, en apparence, rien ne réunit, peut-être pas d'affinité en commun, et pourtant, ils vivaient la joie de chanter les louanges de Dieu, parce qu'ils connaissaient leur Créateur, parce que leur Créateur était aussi leur Seigneur, et ils aimaient l'écouter, ils aimaient lui obéir, et parce qu'ils savaient que leur Seigneur leur avait donné la victoire. Ils étaient vainqueurs par Jésus-Christ, qui s'est donné pour eux, par amour pour eux, et qui les a rendus plus que vainqueurs, qui les a fortifiés. Cette espérance, elle ne trompait pas, et elle ne trompe toujours pas, mais j'étais incapable de voir, incapable de chanter, incapable de bénir son nom sans cette intervention de Dieu lui-même. Et cette intervention de Dieu, elle a eu déjà lieu et on peut s'en saisir maintenant. Cette intervention de Dieu, elle veut impacter ton cœur et il faut regarder, pour laisser Dieu intervenir dans ton cœur, il faut regarder au fait que tu méritais, que je méritais, qu'on méritait tous la colère de Dieu, mais qu'il ne l'a pas fait retomber sur nous, mais sur Jésus-Christ, son Fils. Nous méritions la colère à cause de nos péchés. Effectivement, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire la logique du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il veut nous donner. C'est ça qu'il nous a obtenu à la croix. Notre Dieu a donné son Fils unique pour que, à la croix, ce soit l'endroit de toute notre louange, l'endroit d'une louange cosmique, comme ce psaume nous invite à le louer avec toute la création finalement. La croix de Jésus-Christ, c'est le tribunal de Dieu où la justice est tombée, le verdict est tombé, la justice est accomplie. Alors oui, si le chrétien ne voit pas tous les effets de la justice de Dieu immédiatement, il est appelé à persévérer. Il doit se rappeler aussi que toute la création attend, avec un ardent désir, comme le disait l'apôtre Paul, la révélation des fils de Dieu. Il nous rappelait, Paul, que la création a été soumise aussi à la vanité. Oui. Et dans tout ça, on a l'espérance qu'elle sera, la création et nous avec, affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et c'est cette liberté que Paul exprime en Romains chapitre 8, que nous revoyons aussi dans ce psaume. C'est un psaume qui nous invite à une louange, tous ensemble, avec toutes les nations, parce qu'il vient toucher toutes les nations, que ce soit la maison d'Israël, ou le peuple païen qui était aux alentours et qui voyait la gloire de Dieu dans ce peuple que Dieu avait choisi pour se révéler à toutes les nations. C'est beau de voir comment Dieu est le même pour tous les peuples et invite tous les peuples. En Jésus-Christ, il n'y a plus ce mur entre les peuples. Christ a réuni tous les peuples en son sein, en son œuvre parfaite à la croix. Je vous invite à reconsidérer cette œuvre et à chanter une louange nouvelle à votre Créateur, à celui qui vous a aimé, fondé, tissé dans le ventre de votre mère. C'est merveilleux, Le Dieu que nous adorons est merveilleux, il est glorieux et il juge selon sa fidélité. Et il a accompli ses jugements à la croix de Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle. Nous voulons encore tous ensemble te rendre la gloire en ce jour, dans nos cœurs Seigneur. Mais nous voulons vivre ça en communauté aussi, trouver des croyants avec qui s'exhorter, s'encourager à demeurer dans cette foi si belle. Non pas que notre foi soit belle, mais toi, tu es merveilleux. Oui, la splendeur et la magnificence sont devant ta face. Oui, la gloire et la majesté sont dans ton sanctuaire. Nous te louons de ce que tu es bon et de ce que toute la création un jour verra combien ta gloire est sans égale, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen.
À toi la gloire. Ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, dont je ne crains rien.